Eh bien bonsoir et bienvenue dans le Jardin des mots pour notre émission de ce mois d'octobre. J'ai le plaisir, le bonheur et l'honneur de recevoir aujourd'hui Laurent Descartes. Alors Laurent, je vous le présenterai à petits pas, à petits mots. Laurent est directeur artistique de la Baleine qui divague depuis quelques 20 bonnes années, hein, on dira ça comme ça. Alors, Laurent, il produit, il diffuse des spectacles, Laurent compte, et Laurent fait partie d'une grande famille qui est celle à la fois des conteurs et des programmateurs.
Oui.
Voilà. Donc, bienvenue sur Fréquence Mistral, et doublement bienvenue, puisque par indiscrétion, je sais que c'est un exilé aujourd'hui, il a quitté Marseille pour s'installer, devinez où, à Fort-Calquier. Voilà.
Bonjour, merci pour la bienvenue. Je suis effectivement un étranger.
Alors, l'étranger que vous êtes un passionné, un étranger passionné, c'est pas mal. Et on va vous laisser quelques petits, tout petits instants pour vous présenter qui est Laurent Descartes.
Waouh.
Non, pas de psychanalyse tout
alors,
de suite.
Comme,
hein.
Comme la présentation qui dit que je fais partie de la famille des conteurs et des programmateurs me va tout à fait, puisque c'est effectivement là-dessus, que, autour de ça, que tournent mes activités depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans comme conteur professionnel, 20 ans maintenant avec la Baleine qui divague. L'année prochaine, la Baleine aura 20 ans. Et bien plus longtemps, puisque j'ai eu 53 ans il y a quelques jours, bien plus longtemps avec les histoires depuis toujours, je crois, depuis que je sais lire en tout cas.
Pour nous faire remarquer qu'on a oublié l'anniversaire, c'est ça ?
Eh bien voilà.
Ça c'est fait. Alors on va tout d'abord écouter une petite musique et après on dira pourquoi.
La venti da gent peitiruna, que és a cosa de gent, capelles de gent, en punta que no estic paguen l'Antoni, l'Uboli. Marida me pega que és tan, podi pu esperar tan, 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 tan. Marida, marida, ge da gent, ti duna. Ma filla de buen marida, la venti de pan peitiruna, que saco de pan, capelas de pan, limpulan je quiz un tulan l'Antoni l'uvoli. Marida me pega que estan, podi pu espera tan, 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 tan. Marida, je da je, je de pan, ti duna. Tabadabadabadabadam, 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 ma figlia te vuoi smarida, la vengi di lì e pegti d'una, che sacco di lì, capelas di lì, cuccia che non disescagli l'Antoni, l'uvoli, ma di da me pega che stan, po' di più espera, tan, 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 gede pan, gida gen, gidona. Pentiruna, che sa coda vi, capela da vi, in quinta che non stisa mill'Antoni l'uvoli, ma di da me per a che stan, po di più e spera tan, 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 da gie, gie de pan, gie de lie, ti duna. Che sa coda vi, capela da vi, che sa coda lie de pan, da gie, in quinta che non stipa gen, l'antoni nuvoli, mai li da me pela che stan, mai li da me pela che stan, mai li da me pela che stan, po di più espera tan, tan, tan. L'Adamo si bagnò d'un bo de castagno, l'humus si secò d'un bo de pasteco.
Eh bien, alors moi je dis qu'est-ce.
Eh bien, on est en plein dans la tradition populaire. C'est-à-dire que c'est de la transmission et de la création en même temps. C'est Jean-Marie Carlotti qui chante une comptine, une vieille chanson, et en même temps, c'est une chanson de Carlotti. En même temps, c'est les deux. C'est pareil que le conte, c'est la tradition populaire, c'est de l'artisanat, de l'art en même temps, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est accessible directement et à la source tout de suite.
Ce sont des paroles tissées. Parole tissée. Mais vous comprenez, pardon, le provençal, Laurent ?
Je le comprends un petit peu, surtout quand j'ai la pochette de disque pour m'aider. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est les sonorités qui me semblent porter encore un peu plus que les mots. C'est quelque chose de très important, le son des mots, et donc du coup, les différentes langues dans lesquelles on va s'exprimer vont nous permettre de, me semble-t-il, de toucher des sens différents que ceux qu'on entend simplement avec le mot. C'est quelque chose que je trouve très important, la musique qu'il va y avoir derrière les mots. Et donc la façon de les prononcer, parce que tout ça, ça va donner des sens cachés, des résonances qui sont très très importantes. Et du coup, là, lorsqu'on écoute cette chanson, si on l'écoute en provençal ou si l'on écoute en français, ça ne va pas être la même chose.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Alors, musique des mots, mais musique aussi tout simplement, parce que Laurent Descartes est aussi un conteur qui s'accompagne.
Qui s'accompagne, tout à fait. C'est le bon terme. Parce que conteur musicien, je vous dis non.
Ah non, 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 mais ça ne me serait pas venu.
Très bien,
du tout,
ça fait plaisir,
tout,
merci.
Alors, le choix des instruments me paraît assez semblable au choix qui préside à tes contes. C'est-à-dire qu'on est dans un voyage permanent autour de pays, de cultures, de rencontres.
Oui, oui, peut-être, effectivement. Je n'ai pas pensé à ça comme ça. Disons que la musique, donc il y a la musique des mots lorsqu'on raconte, ce qui me semble essentiel et j'allais dire même central dans le fait de raconter. Mais c'est vrai que j'utilise des instruments de musique. Alors, il y a deux façons différentes. Soit ce sont des instruments qui vont venir, des morceaux de musique assez courts qui vont venir s'intercaler entre des contes lorsque je fais une conterie, un spectacle dans lequel je vais passer d'une histoire à une autre, une longue histoire merveilleuse, une plus courte philosophique, un conte qui vient d'un pays, un conte qui va dans un autre. Et là, la musique va nous servir de sas pour laisser partir les impressions de l'histoire qui vient de passer et être prêt à accueillir une nouvelle histoire. C'est important d'être prêt à accueillir, parce que si on y va de but en blanc comme ça, de l'une sur l'autre, eh bien on a encore des petits restes de l'histoire d'avant qui vont venir parasiter l'écoute du démarrage de la suivante. Donc voilà, ça c'est une façon d'utiliser la musique que j'aime bien, qui moi aussi me permet de passer, de faire le pas d'une histoire à l'autre. Deuxième façon d'utiliser la musique, pour moi, c'est en même temps que je raconte. Alors là, ça me permet de rythmer le récit et de partir sur des histoires plus longues. Et j'adore quand on peut partir sur des histoires longues, j'adore les longues histoires, parce que du coup, on peut s'installer dans une histoire, on peut s'apprivoiser avec les gens qui écoutent, on a un peu plus de temps pour s'apprivoiser, et là, la musique va venir aider à rythmer le récit. C'est surtout dans ce sens-là que je l'utilise. À rythmer le récit, à appuyer la voix, à soutenir l'attention aussi. Voilà, c'est là que la musique va être intéressante, va m'intéresser. Quand on part sur des histoires qui font une heure, qui font des épopées de plusieurs heures, là, c'est nécessaire, me semble-t-il.
Alors, il y a les épopées d'une heure ou de plusieurs heures, mais il y a aussi, si j'ai bien entendu le travail qui a été fait à la baleine, il y a aussi des suivis d'une semaine sur l'autre ou d'une séance sur l'autre.
Oui, les contes
en feuilleton.
Ah, ça, c'est super, ça. Les contes en feuilleton, c'est super. C'est venu d'une vieille... Comme tout ce qui est intéressant, Monsieur Brunty, ça vient d'un rêve, d'un fantasme, c'est-à-dire que j'avais entendu parler de ce qu'on appelle les conteurs de café orientaux. Mmh. Vous avez un conteur qui est dans un café, vous savez que dans ce café-là, il y a ce conteur-là avec cette histoire-là. Et donc, vous allez au café à l'heure dite, vous écoutez le conteur, à un moment donné, il s'arrête. Et si vous voulez la suite de l'histoire, vous revenez le lendemain, à la bonne heure, et vous avez la suite de l'histoire, mais à un moment donné, il va s'arrêter, parce qu'il faudra revenir le lendemain. Donc on est dans un conte en épisode, et ça c'est super. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui moi, m'a séduit, l'idée me plaisait quand j'ai entendu parler de ça. Donc du coup, j'ai eu la chance d'aller au Liban, invité par un conteur là-bas pour un festival à qui j'ai dit j'aimerais bien voir un conteur de café. Et il m'a dit maintenant, dans les cafés, à la place du conteur, il y a la télé. Ah. Voilà. Donc on a décidé de faire le chemin inverse à Marseille, c'est-à-dire à la place de la télé, de mettre le conteur. Et donc, devant la baleine qui dit vague, il y avait une terrasse de café. Et donc, un jour, je me suis lancé. J'ai commencé à raconter une histoire que j'aime beaucoup, une histoire irlandaise. Et je l'ai découpée en 15 épisodes de 40 minutes à peu près chacun. Du coup, ben voilà, les gens étaient au café. Tout d'un coup, il y a un gars qui se met à parler, à jouer du dulcimer. Ils écoutent pas. Et puis certains s'arrêtent, se demandent qu'est-ce que c'est que ce gus-là. Du coup, ils demandent. Ils reviennent le lendemain. 3 jours après, ils peuvent pas venir. Ils veulent savoir la fin. Enfin voilà. Donc c'est très très intéressant, très très marrant. Voilà, le conteur est au milieu. Voilà, il compte en épisodes. Et du coup. On a proposé de mettre en place des résidences d'écriture pour amener les conteurs qui en avaient envie à produire des contes en épisodes. Et donc, depuis quelques années, chaque année, il y a un conteur qui s'installe en résidence et qui sort avec un conte en épisode, alors en 4 épisodes, 3 épisodes pour ceux qui sont un peu frileux, 8 épisodes pour celui qui a envie de tenter le coup, enfin voilà, et ça nous plaît beaucoup.
Eh bien, avant de revenir vers cette histoire de baleine, justement, parce qu'elle divague, et on va un petit peu voir, on va refaire une pause musicale.
Un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air. Un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. un grain de poussière, un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière infiniment petit ou grand.
Eh bien, cette histoire-là ne sera que d'aller, retour, on part, on revient. Pourquoi ce choix, Laurent ?
Le choix
musical, là ?
Ah, parce que j'adore Rigelin, c'est un beau fou, et puis quelqu'un qui est d'une générosité sur scène. Je ne suis pas allé dans beaucoup de concerts, mais je suis allé dans beaucoup de concerts d'Rigelin. Cette folie communicative qu'il a lorsqu'il est sur scène, c'est assez magnifique.
Et c'est la complicité du petit grain de sable.
Aussi. Aussi. Et puis cette idée, effectivement, le grain de sable, la poussière dans l'univers, il y a quand même quelque chose de c'est très beau, c'est très poétique, je pense. Et ça me fait penser aussi, d'une certaine façon, au mythe, au mythe de création, qui sont des histoires que j'adore.
Poussière d'étoiles. Mm-hmm. Alors, on revient à la baleine qui divague, donc c'est pas une poussière, là, c'est quand même quelque chose qui a marqué toute une époque à Marseille, hein, quand même.
Ah ben tant mieux, si c'est le cas.
La baleine, on ne pouvait pas faire l'impasse de la baleine quand on travaillait autour du conte.
Mais disons que l'originalité, c'était effectivement qu'on est parti sur l'idée d'un lieu de diffusion permanent qui ne s'intéressait qu'au conte. Et ça, c'était effectivement très, très particulier, et à ma connaissance, unique en France, c'est-à-dire un lieu théâtral, vraiment, puisqu'il y avait un vrai plateau, des lumières, etc., qui programmait régulièrement, qui faisait vraiment des saisons théâtrales avec uniquement des conteurs. Et quand on dit saison théâtrale, c'est depuis septembre, quelquefois début octobre, jusqu'en avril-mai, parce qu'après, pour faire entrer les Marseillais dans une salle, c'est très difficile, mais avec un conteur différent chaque semaine. C'est quand même des grosses programmations et vraiment un lieu de diffusion permanent. Alors, effectivement, il y a un moment donné où ça commence à se voir, quoi. Voilà.
Ça commence à se voir. C'était un petit clin d'œil peut-être à l'Ogre de Barbarie, non ? Il n'y avait pas ça à Paris ?
Alors, l'Ogre de Barbarie était un café-restaurant dans lequel les conteurs passaient dans la salle de restaurant. Donc nous, on était vraiment sur l'idée d'un théâtre et avec une programmation très régulière, très 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 régulière. Et du coup, l'idée, c'était d'explorer et de faire explorer aux gens le panorama des conteurs
des
francophones et même au-delà,
des
univers très différents, tout à fait.
Et puis une petite table quand même, hein, puisqu'on grignotait en
passant. Oui, sur la deuxième baleine. Alors il y a eu la petite baleine, il y a eu la grosse baleine.
Et
la grande baleine.
Et laquelle a mangé Jonas.
Voilà, tout à fait. Alors la petite baleine, c'était un lieu dans une rue qui montait, dans laquelle il n'y avait pas de restauration. Il y avait un petit bar dans lequel on pouvait boire un coup à la fin. Mais c'est vrai que c'était un endroit un peu particulier. Les gens, le spectacle était à 8h et quelquefois à 8h, les gens nous téléphonaient en disant « je cherche une place pour me garer, faites patienter le compteur ». Voilà. Et donc c'était sympathique, il y avait une soixantaine de places, je crois. Et puis ensuite, il y a eu la baleine un peu plus grosse avec une terrasse, un restaurant à l'entrée, un lieu avec le centre de documentation. Donc des centaines d'ouvrages sur le conte, du répertoire, des mythologies, des anthologies, des revues spécialisées, des essais, des textes de spectacle, hein, qui étaient disponibles tout le temps. On venait boire un café, on pouvait bouquiner.
Un vrai centre ressources, en fait.
Un vrai centre ressources, voilà. Donc ça, c'était encore une fois un rêve un peu devenu réalité pendant un instant, qui a été... On a vraiment eu beaucoup de plaisir à vivre celui-là, à le faire vivre, à le partager.
Alors, lorsque tu dis « on », Qui s'occupait donc de la baleine?
Ah, mais c'est une équipe. La baleine, moi, je suis celui qu'on voit peut-être un peu plus parce que je suis conteur. Mais dans La baleine qui divague, il y a depuis le début Elisabeth qui est sur la communication, qui est aussi qui suit les projets, qui les coordonne et qui est également à la programmation avec moi. Il y a depuis peu un chargé d'administration, depuis un an et demi, à Nice, qui est dans le bureau et puis qui sait faire ce que nous, on ne sait pas faire, c'est-à-dire qui sait s'occuper de l'informatique, de la gestion, etc., etc. Et puis, il y a aussi, derrière nous, depuis très longtemps, un bureau avec des gens qui aiment le compte, qui sont avec nous, le président, etc., qui sont très présents. Et régulièrement, des bénévoles, des compteurs qui gravitent autour, qui utilisent la salle, qui viennent dans le centre de doc, avec qui on travaille plus régulièrement peut-être. Voilà. Beaucoup de gens qui passent. C'était ça qui était intéressant aussi, c'était que quand quelqu'un arrivait sur Marseille et s'intéressait au compte, on le voyait immanquablement atterrir à La baleine et nous dire « voilà, j'ai entendu parler, qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, ben, on rencontrait plein de gens comme ça, des gens qui venaient de l'étranger ou de toute la France. Et des compteurs qui disaient, ben moi je suis compteur, ben on avait un lieu, donc ils nous montraient un petit peu ce qu'ils savaient faire. Ça nous intéressait, on disait, ben banco, on connaissait le travail des gens, on savait quand c'est qu'on pouvait faire appel à eux.
Eh bien, avant de passer à la troisième baleine, la baleine dématérialisée,
voilà.
Je voudrais juste que Laurent Descartes nous parle des chats, parce que moi j'ai entendu dire que dans l'équipe, il y avait quand même un chat noir.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que à La baleine, il y a eu pendant un moment des chats dans le théâtre. Il y a eu des chats dans le théâtre. Effectivement, on était. C'était une idée d'Elisabeth. Je crois qu'il disait, tiens, ça serait bien d'avoir un chat. Et c'est vrai qu'un, comme dit Baudelaire, un chat passant parmi les livres. Non, c'est pas Baudelaire, c'est Apollinaire.
C'est, pas Baudelaire,
c'est Apollinaire, un chat passant parmi les livres. Et bien, effectivement, donc du coup, il y a un conteur qui nous en a ramené deux.
Ah, carrément.
Deux. Voilà. Et on a eu de la chance parce qu'ils sont restés au théâtre pendant un bon moment. C'était chat du théâtre. Les gens les caressaient. De temps en temps, on les entendait miauler pendant les spectacles parce qu'ils avaient à ce moment-là interdiction de descendre sur la scène. Donc, du coup, ben, ils s'exprimaient. Voilà. Et puis, ils ont eu de la chance parce que nous avons eu un incendie à La baleine à un moment donné. Et un peu auparavant, quelques semaines auparavant, on avait rapatrié les chats chez nous. Donc, les chats du théâtre ont réussi à survivre à l'incendie de La baleine.
Bien. Eh bien, on refait une petite pause musicale, parce que moi, je trouve que la belle voix de Laurent doit être de temps en temps adoucie par une musique.
À quoi ça nous sert d'être honnêtes? Les voleurs vivent mieux que nous. Les voleurs, on les voit partout. Au cinéma, ils font recette et leurs mémoires font des sous. On les admire, voyez-vous. Ah, bien sûr, si c'était possible, honnête et rempli de pognon. Mais c'est ça qui nous rend grognons. On sait que c'est inaccessible, alors que honnête et fauché, c'est ridicule et ça n'a jamais consolé. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade. Le bonheur, il est pour les chiens. À quoi ça sert qu'on se décarcasse? Les feignants vivent mieux que nous. Les feignants joignent les deux bouts, sans trop se bouger la surface. On les accueille un peu partout, ils sont si gentils, voyez-vous. Ah, bien sûr, si c'était possible, laborieux et considéré. Essayez, on vous rit au nez, on vous trouve vraiment pénible, alors bosseur et méprisé, c'est ridicule et ça n'a jamais consolé. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade, et le bonheur, pauvre malade, le bonheur, il est pour les chiens. À quoi ça sert d'être pacifique? Les soudards vivent mieux que nous. Les soudards ont un charme fou, et leurs élans patriotiques jettent les foules à leurs genoux. On les respecte, voyez-vous. Oh, bien sûr, si c'était possible, pacifique et bien protégé. Mais on est au cœur du danger, on fait une trop bonne cible, alors tranquille et irradié. C'est ridicule et ça n'a jamais consoler. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade. Le bonheur, il est pour les chiens. À quoi ça sert d'aimer les autres? Les racistes vivent mieux que nous. Les racistes un peu partout, sous des dehors de bons apôtres, cachent les crimes les plus fous, dont ils se vantent, peu ou prou. Ah bien sûr, si c'était possible, tolérant et puis toléré, libre d'aimer sans comparer, serait un bonheur indicible, mais tolérant et tabassé, c'est ridicule et ça n'a jamais consolé. C'est pour l'honneur, tiens, tiens, l'honneur. L'honneur, ça se mange en salade. Et le bonheur, pauvre malade. Le bonheur, il est pour les chiens. L'honneur, ça nous fait bien rire. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire à nos enfants?
Merci, Anne. Alors, nous passons à l'épisode 3. Il y avait la guerre des étoiles, il y a eu plein de choses comme
la
ça.
La baleine, le retour. Épisodes,
la baleine, le retour. Et moi, je dirais le bal de la baleine.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il arrive à cette baleine aujourd'hui?
Ah ben, simplement, ce qu'il arrive, c'est que nous arrêtons l'idée d'un lieu de diffusion permanent. Les choses bougent et se transforment. Les choses qui se transforment pas, eh bien, elles se momifient ou elles meurent. Et voilà, donc les choses bougent. Et la transformation, ça a été le fait qu'on a de plus en plus travaillé en extérieur par rapport au lieu. En tant que centre de ressources, en faisant aussi de la direction artistique, en faisant de l'aide à la programmation, etc., etc. Sur d'autres lieux, donc on a par exemple depuis 3 saisons, ça continue cette saison-ci, un partenariat avec la CRIER, par exemple, où on fait passer des compteurs, et pour nous, on est vraiment très contents, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de scènes nationales qui accueillent du compte, et en plus du compte qui soit du compte, si je peux me permettre, c'est-à-dire c'est pas du compte théâtralisé, c'est vraiment un compteur qui est là, ou une conteuse qui est là sur scène et qui raconte, c'est quand même différent. Donc, par exemple, ce genre de partenariat, là, on l'a un petit peu développé avec des musées, le MUCEM ou autre, et puis sur le territoire régional. Donc, du coup, ça fait beaucoup à gérer avec, en plus, un lieu de diffusion permanent. Donc, le lieu de diffusion, on le laisse tomber. Et on endosse cet habit un petit peu de baleine nomade, d'où le carnet de bal qu'on a sorti il y a quelques temps, là, pour donner des rendez-vous, pour que les gens puissent valser avec la baleine à droite, à gauche. Et on a sorti une vingtaine de rendez-vous, puisque c'est un petit clin d'œil, puisque la baleine aura 20 ans en 2016. Voilà, on a sorti 20 rendez-vous parmi tous ceux qu'on est en train de mettre en place. Voilà.
Alors, je ne résiste pas au plaisir de lire quelques petites choses.
Mais je vous en prie.
Ici. Bientôt 20 ans que la baleine qui divague invite le public à écouter des conteurs du bout du monde ou du coin de la rue. Pour cheminer vers cet anniversaire, nous avons choisi de présenter 20 rendez-vous. Alors, le carnet de bal, c'est un carnet de rendez-vous que vous dites éclectique, qui s'adresse à tous, parce que, et là je cite à nouveau, la modernité du conte, c'est vous qui écoutez au XXIe siècle des histoires vieilles, toutes neuves. Classé patrimoine immatériel de l'UNESCO, le conte est toujours au rendez-vous, hier comme demain. La baleine qui divague s'applique à lui donner espace, des espaces. Basée à Marseille, à côté de la mer, elle s'est posée au fil des ans dans différents quartiers et arrondissements. Elle est centre de documentation spécialisé pour continuer à imaginer des projets et toujours proposer de rencontrer le conte en Provence et au-delà. On retombe sur cet exil permanent, j'allais dire, ou cette ressource permanente qui vous fait arpenter alors l'univers du conte, mais désormais le territoire. Donc.
Tout à
et
fait.
Je trouve que cette idée de carnet de bal est magnifique. Il manque un petit stylo qui serait accroché là pour faire
pour marquer les rendez-vous, certes, mais en allant sur le site, on a l'éventail, c'est quand même pas mal. Ah, c'est pas le stylo, mal. Mais c'est joli.
Mais l'éventail, comment ça, un éventail sur le site?
Tout à fait, il suffit de le télécharger, de le plier selon les pointillés, de le coller au bon endroit et on a un éventail carnet de balles. C'est pas beau ça?
Ah, ça c'est magnifique. Donc, allez tous sur le site de la baleine qui divague, récupérez votre éventail, on reconnaîtra ceux qui ont écouté Fréquence Mistral ce soir, dès demain, à Carrefour, avec leur petit éventail.
Très bien.
Bon, pour revenir sur le conte, donc Laurent, un conteur, c'est quoi? Parce que, n'est-ce pas, il y a autant de conteurs que on ne peut pas dire d'école, mais de contes différents. Moi, le conte théâtralisé est quelque chose qui me tient toujours un petit peu en distance. Il y a dans le conte des gens qui viennent du monde du théâtre et qui certainement ont une démarche différente de la vôtre.
Ah oui, tout à fait, oui,
alors,
c'est vrai.
Alors, votre travail de conteur.
Alors, mon travail de conteur. pour moi, le travail du conteur est un travail de présence. C'est de la présence et de la disponibilité à l'instant. C'est ça la chose la plus importante. Pour ça, il faut quand même qu'il y ait d'abord une grosse imprégnation, une grande connaissance de ce qu'on veut raconter, une grande, pas connaissance, une grande familiarité. C'est-à-dire que pour que je raconte une histoire, il faut que cette histoire-là, elle me soit familière. Il faut que je l'ai fréquentée longtemps. Il faut qu'on se soit fréquenté et qu'on s'aime bien. On ne peut raconter une histoire que si on l'aime. Si on n'aime pas une histoire, n'essayez pas de la raconter, c'est pas la peine. Si vous aimez l'histoire, vous allez pouvoir la raconter. Et vous n'allez pas vous poser la question de comment je vais la raconter. Quand on aime, on ne se pose pas de questions. On raconte. Voilà. Le travail du conteur, c'est ça. C'est d'aimer l'histoire et après, d'aimer la raconter. Pourquoi est-ce que je raconte? Je raconte parce que j'ai rencontré quelque chose que j'aime tellement que j'ai envie de le partager. Si ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi j'embêterais les gens à le raconter. Il y a quelque chose qui me plaît tellement que tu as vu ce coucher de soleil? C'est ça que je dis chaque fois que je raconte. Il y a quelque chose qui est tellement beau, je veux le partager, c'est tellement grand. Voilà, on compte pour donner une parole qui nous dépasse. Il me semble que c'est ça le conteur. Maintenant, c'est la différence qui va y avoir entre tous les conteurs, ça va être leur degré de familiarité avec leur histoire. Ça, j'espère qu'elle est toujours la maximum. Mais de quelle façon est-ce qu'on va faire passer? Tout dépend de quelle est la personne. C'est pour ça que je parle de présence et de disponibilité, parce qu'on est présent à l'histoire complètement, puisqu'on l'aime. On est présent à soi-même aussi, puisque c'est celui qui raconte avec ses mots, avec ses gestes. Ça n'est pas un comédien qui va rentrer dans la peau de quelqu'un pendant un moment, pendant la peau d'un personnage, incarner un personnage. Non, quand je raconte, c'est moi qui raconte. Je ne joue pas à celui qui raconte une histoire. Autrement, je mets trop de distance entre l'histoire et moi, et du coup, l'histoire et le public. La grosse différence avec le comédien, ça va être ça. Ça va être d'être avec sa personnalité à soi, au moment où on raconte. Et puis, ensuite, une disponibilité à l'instant. Parce que quand on est en train de raconter en plein air ou dans une salle équipée, quand on est en train de raconter pour 20 personnes ou pour 300, avec un micro ou sans micro, tout ça fait que l'histoire ne va pas être exactement la même. Et c'est pour ça que la familiarité est importante, parce que l'histoire, on sait que de toute façon, elle va passer, ces histoires-là. Moi, je raconte des contes traditionnels. Encore une fois, c'est aussi quelque chose de particulier, on peut en reparler, mais ces histoires-là sont là depuis on ne sait pas quand. Ouais. Et si elles sont encore là, c'est parce qu'elles ont des choses à nous apprendre, c'est parce qu'elles ont des choses à nous dire, et c'est parce qu'elles nous sont importantes. Le conteur, il n'est pas important pour le conte. Le conte, il continuera sans. Même s'il n'y a pas de conteur, ce n'est pas grave.
Tout à fait.
Nous, on ne sert pas à grand-chose. Par contre, le conte, il est important pour nous.
Bien sûr.
Donc, voilà, ce qui se passe, c'est que le conteur va raconter avec tout ce qu'il est, et mettre tout ça au service de l'histoire pendant un temps très précis. Et c'est pour ça que je parle de présence et de disponibilité. C'est ça qu'il s'agit.
Et c'est une disponibilité au public aussi et à l'environnement, parce que le clocher qui sonne, l'âne qui se met à braire, ça fait aussi partie de l'histoire.
Complètement. C'est une disponibilité. On est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, il y a un chemin qui va vers soi-même, il y a un chemin qui est celui de l'histoire, il y a un chemin qui est celui du public, celui de l'endroit où on est. Voilà, on est à la croisée des chemins et avec tout ça, on est présent et on ouvre la bouche et c'est parti.
Et on refait chaque fois acte de création.
Tout à fait, oui.
On va avoir un petit exemple de cet acte de création. Est-ce que vous êtes là en accord avec nous, avec Odile, avec moi, en accord avec le studio?
Un acte de création.
Grand silence et on va écouter.
Puisqu'on parle de création, oui, volontiers. Puisqu'on parle de création, j'ai pendant très longtemps et toujours encore, j'ai été très, très intéressé par les cosmogonies, par toutes ces histoires qui expliquent le début du monde. Et aujourd'hui, le début du monde, on l'explique avec la science. J'aime bien être un peu provocant. Je travaille beaucoup avec les collèges et j'aime bien provoquer un petit peu les élèves, les gamins, quand je vais les voir. On parle de science, de mythes, d'histoire. C'est n'importe quoi, c'est des mensonges, etc. Et je leur dis très bien, alors est-ce que vous savez comment a commencé l'univers? Et il y en a quand même au moins quelques-uns qui me parlent du Big Bang et je leur dis qu'est-ce que c'est le Big Bang. Ils me disent ben, c'est une explosion, d'accord, qu'est-ce que c'est qui a explosé? Ah ben c'est une comète, non, c'est un non. Et c'est intéressant parce que personne au monde ne sait ce que c'est qui a explosé. Il n'y a personne, aucun savant qui peut dire ce qui a explosé au début de l'univers. On sait que c'est une explosion, on ne sait pas ce qui a explosé. C'est quand même assez fabuleux ça. Ça a explosé, on ne sait pas quoi. Il n'y a personne qui peut le dire parce que tout ce qu'on peut faire, c'est remonter jusqu'à 3 milliardièmes de seconde après l'explosion, mais on ne peut pas dire avant. Il n'y a que moi qui le sais. Parce que moi, je connais les mythes. Et donc, je peux vous dire ce qui a explosé.
Et alors ?
C'est un œuf de tortue. Au tout début du monde, il y avait juste un œuf de tortue. Il n'y avait rien d'autre. Et puis, il ne s'est rien passé. Il ne se passait rien pendant 18 000 ans. Pendant 18 000 ans, il n'y avait que l'œuf de tortue et puis rien d'autre. Et puis, dans l'œuf de tortue, il y avait tout. Tout ce qui existerait un jour et tout ce qui n'existera jamais. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce à quoi on ne peut même pas rêver, tout était dans l'œuf de tortue. Tout était serré, tout était imbriqué, tout était mélangé. C'était les Chinois, puisque c'est un mythe chinois, les Chinois disent que c'était comme dans l'intestin retourné d'un chien.
Fichtre.
Ouais, c'était pas beau. Et il ne s'est rien passé pendant 18 000 ans. Et puis, à un moment donné, dans l'œuf de tortue, Pangu a commencé à grandir. Pangu a commencé à grandir. Il a grandi, disaient les Chinois, d'un lit par jour. Un lit, L-I, ça fait à peu près 3 mètres, je crois. Il a commencé à grandir 3 mètres par jour. Il a grandi, et puis pendant qu'il grandissait, dans l'œuf de tortue, les choses se sont un peu organisées. Tout ce qui était chaud, tout ce qui était clair, tout ce qui était léger, tout ça, c'est ce qu'on appelle le yang, s'est éloigné de 3 mètres par jour. Et tout ce qui était froid, dense, tout ce qui était lourd, tout ce qui est yin, s'est épaissi de 3 mètres par jour. Et ça a duré 18 000 ans. Au bout de 18 000 ans, le yin et le yang s'étaient formés 3 mètres par jour. Et puis, Pangu, lui, il était immense, c'était un géant. Il était immense, il était vieux. Et Pangu est mort. Mais il n'est pas mort tout à fait. Il n'est pas mort tout à fait parce que son œil droit a donné le soleil, son œil gauche a donné la lune. Pangu est mort, mais pas complètement, parce que son souffle a donné le vent, ses poumons ont donné les nuages. Pangu est mort et les poils de son corps ont donné les herbes, les arbres des forêts, les poils de sa barbe ont donné les étoiles du ciel. Pangu est mort, mais pas complètement, parce que son sang a donné l'eau des rivières, des lacs, des mers. Pangu est mort, mais pas complètement, ses eaux ont donné la terre, les rochers, les quatre montagnes sacrées de la Chine. Pangu est mort, mais pas complètement, parce qu'en mourant, il a donné l'univers comme on le connaît. Et il a aussi donné les hommes. Les hommes aussi viennent de Pangu. Et les hommes, chez Pangu, c'était quoi? C'était les poux. Les hommes sont les poux de Pangu. Voilà l'histoire. Et au moins, ça nous remet à notre place. On sait qui on est.
Tout à fait.
Voilà.
Petit grain de poussière.
Exactement, animé. On y revient.
Merci, Laurent. Alors, moi, j'ai une question. J'ai lu quelque part que vous aviez dit que le conte pour répondre à la violence. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans le quotidien du conteur Laurent Descartes, du programmeur Laurent Descartes, du... Voilà.
Dans le quotidien, on a été invité à un moment donné, à plusieurs reprises, à travailler avec des psychologues ou des gens qui s'intéressent à ça. On nous avait demandé de faire venir des conteurs. Et je me rappelle notamment d'un colloque qui était vraiment sur la violence. Un colloque qui était à Arles sur la violence, dans lequel il y avait des psychologues, effectivement, mais aussi des directeurs de prison, des gens concernés vraiment par ce sujet-là. Et il m'avait demandé d'intervenir. Alors, ce que je faisais, c'était que j'ai fait justement un conte en épisode à la fin de chaque table ronde. Et j'avais choisi deux contes de Grimm que j'avais reliés entre eux. Deux contes parmi les plus violents, c'est-à-dire... l'histoire du genévrier, avec la marâtre qui coupe la tête du petit garçon, qui le fait manger à son père, et puis l'histoire de la fille aux mains coupées, à qui le père coupe les mains, et qui va partir sur les routes avec ses mains coupées. C'est assez étonnant. Et alors, ça avait bouleversé les psychologues, les psychiatres, les directeurs de prison qui étaient là, qui avaient découvert ça. Et voilà, je me rappelle vraiment de ça. Et en fait, qu'est-ce que ça a à voir dans le quotidien ? Je ne sais pas trop, mais ce qui me semble important, c'est de se rappeler que ces contes-là ne sont pas des contes pour enfants. Je parle des contes merveilleux. Oui, les contes merveilleux, quand on dit contes merveilleux, c'est une catégorie de contes, hein, puisque tout est catégorisé dans notre monde cartésien. Oui. Même les contes n'ont pas échappé à la classification.
Et elle est complexe.
Et quand on parle contes merveilleux, c'est ce qu'on appelle, nous, les contes de fées, le plus souvent. Hein, voilà, Cendrillon, Blanche-Neige, Le Petit Poucé, ce sont des contes merveilleux. Les contes merveilleux n'ont jamais été faits pour les enfants. Ce qu'on appelle le conte pour enfants. Pendant les veillées, c'était la télé, c'était la radio, c'était les feuilletons des adultes qui se les racontaient entre eux. Si les enfants écoutaient, ben très bien. Et donc ces contes-là peuvent être très violents. Et ce qui me semble important, c'est qu'ils le soient vraiment. Quand on édulcore un conte, on le tue. Parce que le conte, s'il est violent, ça a une bonne raison d'être. Parce que le conte, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à l'enfant, je parle du conte là, pas du mythe, hein. Le conte, il dit, la vie, c'est dur. Tu vas en prendre plein la gueule. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Ça va être difficile. Vraiment, ça va être difficile. Mais si tu regardes autour de toi, si tu écoutes les choses, si tu tiens une ligne particulière, à la fin, elle est bonne. On ne sait pas comment ça va arriver, mais à la fin, ça se passe bien. Il y a trois fils de rois qui partent chercher l'oiseau de feu pour leur père. Leur père va mourir s'il ne trouve pas l'oiseau de feu. L'aîné, il s'en va, il trouve dans la forêt une vieille embourbée avec sa charrette. La vieille, elle dit « Aide-moi ». Elle lui dit « Tu rigoles ou quoi ? J'ai pas que ça à faire. Débrouille-toi, la vieille. » Hop, il s'en va. Il ne trouvera pas l'oiseau de feu. Le deuxième, il part un an après. La vieille, elle est toujours dans sa forêt, embourbée, la charrette jusqu'aux essieux. Elle dit « Aide-moi ». Elle lui dit « Tu t'as qu'à te débrouiller, moi j'ai autre chose à faire. » Il s'en va. Il ne trouvera pas l'oiseau de feu. Un an après, le plus jeune s'en va, il trouve la vieille au même endroit, embourbée de la même façon, et elle dit « Aide-moi ». Et lui, dit « Bien sûr, je t'aide la vieille ». Hop, il soulève la charrette, il aide la vieille à sortir de la boue, et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ?» Elle lui dit « Je cherche l'oiseau de feu ». Elle dit « Tu sais où aller ?» Et il dit « Non, j'en sais rien ». « Eh bien, moi, je sais, je vais t'aider ». Voilà. Donc, ça va être difficile. Il y a des épreuves, etc. Mais lui, simplement parce qu'il écoute, parce qu'il est servial, parce qu'il ne pense pas qu'à lui, il va avoir de l'aide. Les contes, c'est ça. S'il n'y a pas de vieille embourbée, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de femme dans le placard de Barbe Bleue, ça ne marche pas. S'il n'y a pas le garçon qui est mangé par son père, il ne peut pas revenir à la vie à la fin parce que sa sœur s'est occupée de lui. Ce n'est pas possible. Donc, si on ne passe pas par le côté obscur de la force, on n'aura pas la récompense à la fin. Les contes, ils vous disent ça. Et la violence, elle est là. On ne peut pas la nier. Si on la nie, on est dans du tiède et le tiède, ça ne marche pas.
Ça marche pas. Non, pour faire le thé, c'est pas bon du tout, du tout, ah. du tout. Non, non, il est vrai que le conte est initiatique. Hein, c'est,
tout à fait.
C'est comme ça que les choses sont dites, mais, quand même.
Disons qu'elle... pour moi, ça n'est pas des morales que ça donne, mais ça donne des indications.
C'est pour ça que j'ai utilisé le mot initiatique voilà. Et non pas le...
Voilà.
Et non pas autre chose.
Voilà.
Non, non, c'est histoire de...
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'a pas l'air d'y toucher. Ça n'a pas l'air d'y toucher.
Absolument.
Et puis on peut l'entendre de plein de façons différentes. Ces contes-là, on les raconte devant des publics dans lesquels on peut avoir des gamins de 5 ans et des vieilles branches de 98. Et tout le monde va entendre un message pour lui. Je me rappelle un jour, on en parle souvent à la baleine, nous avions accueilli un conteur africain. Et à la fin de chaque histoire, lui, il avait cette manie de dire c'est quoi la morale ? Et c'était frappant parce que il y avait 5, 6, 10 morales différentes qui toutes étaient très bonnes. Donc chacun trouve l'aide dont il a besoin dans une histoire. Et ça ne sera pas la même au fur et à mesure qu'on écoutera l'histoire. Donc on peut écouter la même histoire 18 fois différente, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas la même.
Absolument, c'est tout le travail auquel nous renvoie aussi Suzy Platiel avec les sociétés, la transmission dans les sociétés de tradition orale.
Tout à fait.
Hein, on touche complètement à ces domaines-là. Moi, je vois avec horreur et terreur, comme les contes de dévoration, que l'heure tourne. Et je pense que nous allons faire un jardin des mots à épisode, parce que je n'ai même pas passé la moitié de toutes les questions que je voulais poser à Laurent. Donc, d'ores et déjà, je vais vous proposer que... ou le mois prochain, ou le mois d'après, Monsieur Laurent Descartes vienne pour compléter quand même cet entretien, cette rencontre, parce que c'est bien de rencontre qu'il s'agit. Et puis, comme je fais un petit peu dans la provoque, j'ai très envie de vous lire un petit passage de Léo Ferré qui me renvoie, je ne sais pas pourquoi, à Laurent Descartes, mais peut-être que vous le verrez.
Bon.
C'est un petit texte qui est issu de Techniques de l'exil. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de vous lâcher, Monsieur Descartes. Je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai vraiment que le jour où, en vous lâchant, mon lâchage n'aura plus pour moi aucune signification. Et c'est difficile. Il y a les larmes, les valises et le spleen, mot anglais propre aux terreurs anglaises et qui donne de l'accent à notre cafard. Les larmes se partagent. Les valises s'échangent, se vident, cèdent, s'entraident. Le spleen se porte seul, comme une croix de brume. Jésus avait beau jeu, son père l'avait reconnu. Il pouvait rentrer à la maison la tête haute. Ma maison, à moi, se trouve dans une contrée non homologuée, dans une dimension copine, sans droit, sans religion, sans métaphysique, avec, bien entendu, un anti-droit et tout ce qui se fait de mieux dans l'anti. C'est là que j'y tiens les clés, de ma maison d'anarchie. C'est un petit cadeau, Laurent.
Ben, merci.
Pour les gens qui font ce travail-là, et juste pour, peut-être pour terminer, c'est déjà très difficile d'être conteur engagé, de faire tout ce que vous faites au quotidien. Mais en plus, le réseau national des arts du conte et de la parole s'installe dans la vie de Laurent Descartes.
Oui, c'est vrai que c'est, on va dire, une casquette supplémentaire. Disons que aussi étonnant que cela puisse paraître, le conte est un art un peu nouveau en tant qu'art. Maintenant, est-ce que c'est un art ? Je ne sais pas. Ça me gêne un petit peu ce mot-là qui est très, très clinquant.
Ouais.
Très clinquant, effectivement. Disons que... il est difficile de se faire entendre comme conteur ou de se faire reconnaître en tant que programmateur de conte. Les gens ne savent pas trop ce que c'est. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de conte à quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui ne vient pas spécialement au spectacle, tout de suite, c'est associé aux enfants. C'est pour les petits. Chose dont on vient de parler juste avant et qui n'est effectivement complètement fausse puisque ça n'était pas la destination au début et que les adultes se dédouanent très facilement, alors qu'ils ont, ils auraient intérêt à écouter des contes, ça leur ferait du bien, ils se comporteraient peut-être un peu mieux. Et puis on pense aussi tout de suite à la lecture. Or, le conteur n'est pas en train de lire lorsqu'il raconte une histoire, il est en train de la raconter, de l'interpréter, de la revivre, de la faire vivre. Voilà, donc ça nous semble important. Ça nous semblait important d'aider cette discipline artistique, on va dire ça comme ça, à être reconnue en tant que telle. On en a besoin. Parce que lorsqu'on veut essayer d'être conteur et professionnel, eh bien, il faut, c'est un secret pour personne, il faut arriver à trouver des programmateurs, à des gens qui veuillent bien vous programmer. Si vous allez dans les théâtres, ben ça va être très très difficile. Hein. Pendant très longtemps, les bibliothèques ont été la scène privilégiée des conteurs. Hein, et merci aux bibliothèques. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on peut raconter, et ça, il faut le faire savoir. Et il faut aussi que les gens qui sont amoureux de contes et qui prennent du temps pour programmer du conte ou pour essayer de le faire connaître, etc., se rassemblent entre eux pour se sentir un peu moins seuls. C'est à ça que sert le réseau.
Il faut juste rajouter que pendant très longtemps, le conte n'a pas été aidé en termes de...
Tout à fait.
De subventions, etc., puisque le conte au niveau du livre, on le renvoie aux arts de la rue, au niveau des arts de la rue, on le renvoie au livre. Hein. Donc,
voilà, tout à fait. Et puis quand on arrive à rentrer dans le secteur théâtre, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Oui, tout à fait. Donc le réseau national est un endroit qui se veut être un lieu de rencontre, de partage d'expériences, de projets, pourquoi pas, mais également un lieu d'échange et où on peut se soutenir et avancer ensemble. Voilà, c'est à ça que ça peut servir. C'est un lieu qui n'accueille pas des individus, mais qui accueille des structures. Donc, les individus qui y vont sont représentants des structures qu'ils animent. Et c'est effectivement un rassemblement national qui existe depuis quelques années et qui prend là un essor un peu particulier avec des projets qui sont notamment une grande étude du poids du conte en France qui est en train de se mettre en place et qui pourra nous servir à dire, ben vous voyez, ça en fait du monde, ça en fait des histoires, ça en fait des oreilles qui sont prêtes à nous écouter.
Et ça en fait des petites recettes intimes pour continuer à vivre.
Oui, ça sert à ça.
Ça me renvoie à une petite phrase de René Char que j'ai trouvée très, 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 très jolie ce matin. Parce que René Char a quand même écrit un certain nombre de très belles choses et il dit « Sommes-nous voués à n'être toujours que des débuts de vérité ?» C'est joli. Eh bien, pour conclure, parce que je pense que nous en sommes là, Laurent a choisi un dernier morceau musical. Alors on l'écoute ?
Ah ben oui, volontiers, c'est assez fabuleux. Moi je trouve que c'est de la joie qui démarre sur de la peine, c'est quand même fort. Les negro spirituals, c'est des gens qui sont au fond du trou et qui chantent. Et ça rejoint le conte parce que c'est vraiment des... Quand on est sur les Godspell, c'est vraiment, on chante l'histoire. La Bible est comme un livre d'images. De la même façon qu'on le voit sur les vitraux ou sur les bas-reliefs des cathédrales, c'est un livre d'images et donc c'est de ça que ça parle. Et donc là, c'est une bande dessinée, mais chantée.
Mais c'est, l'alchimie nous dit ça aussi, il faut avoir connu le noir plus noir que noir pour accéder à la lumière.
On my way now, got on my javelin shoes. On my way now.
Got on my traveling
shoes. Well, I'm on my way now.
Got on my traveling shoes.
Oh, them shoes now.
Got on my traveling shoes.
Oh, way jive.
Got on my traveling shoes.
Well, I went to the church. I walked right in. The saints began to pray, and the Lord came in. I went to the altar. Didn't find a fault. Saints begin to pray, and the fires did halt. I'm on my way now.
Got on my traveling
shoes. Well, I'm on my way now.
Got on my traveling shoes.
Oh, them shoes now.
Got on my traveling shoes.
Way child.
Got on my traveling shoes.
Well, I went to the valley. Didn't go to stay. My soul got empty, and I stayed all day. I went to the river, and walk right in. The saints were all the same. Wash away your sins. I'm on my way now.
Got on my traveling.
Well, I'm on my way now.
Got on my traveling.
Oh, them shoes now.
Got on my traveling shoes.
Yes, way John.
Got on my traveling shoes.
Traveling shoes
on my way.
Yes, I'm going home where things are always good.
Eh bien, c'est sur ce rire que nous allons dire au revoir à Laurent. Au revoir, Laurent Bécard, et
merci. Merci aussi, avec plaisir.